Chapitre 12. Alangui, repu de fatigue qui est un bienfait pour les membres et une joie pour le cerveau allégé, Hortense songeait. Il ne lui déplaisait pas de rentrer chez elle. Le voyage, quel meilleur prétexte aux migraines qui exigent l'ombre et le silence, au long repos du matin, aux siestes. Il faut peut-être cuver l'amour comme les ivrognes disent qu'il faut cuver son vin. Mais quel vilain parallèle! J'avais délicieusement rêvé. Ami, je n'ai qu'à fermer les yeux pour te revoir, heureux de mon bonheur et sentir sur mon corps la promenade charmante de tes caresses. Dis, es-tu content de moi? Me veux-tu encore? Veux-tu quelque chose de plus? Comment faut-il faire pour être encore plus ta maîtresse? Oui, je sais, je n'aurais pas dû partir, j'aurais dû rester près de toi, à tes ordres, oublier tout ce qui n'est pas toi. Il fallait courir, il fallait me rejoindre, me retenir, m'enfermer. Écoute, j'irai te voir toutes les semaines. Oh, comme je vais mentir avec volupté, oh, que je vais avoir de plaisir à regarder en face monsieur de la Mésangerie, pendant qu'il lira autour de mes yeux l'innocente lassitude de la voyageuse. Mes enfants, oh, eh bien, sont-ils pas destinés à vivre ma vie? De quel Hortense seras-tu le ténor? Pierre aux grands yeux, toi qui me ressembles pas. Et toi, ma petite Anne, ta mère t'aimera-t-elle moins parce qu'elle est heureuse? Que ton mari soit ton amant, voilà ce que je désire. Et le désir sensuel envahissait toute sa vie. Elle se souvenait presque plus des événements qui avaient précédé le voyage à Compiègne. Elle passa plus d'une heure à se demander s'il y avait aux environs de Saint-Lô ou dans la forêt de Sérisy des océans de fougères. Elle n'en voyait pas, elle chercherait. Monsieur de la Mésangerie, qui l'attendait à la gare, lui trouva l'air fatigué. Elle n'était pas fatiguée, elle était hallucinée. Cependant, elle eut assez de présence d'esprit pour reprocher à son mari de l'avoir laissée. Ainsi, l'ameublement qu'ils avaient presque choisi, elle avait osé le retenir. Elle avait passé au Louvre deux journées d'indécision à lasser tout le monde et elle-même. Vous y retournerez seul, cela votre punition. Monsieur de la Mésangerie fut flatté. Mais il y avait un autre malheur. Les babioles pour les enfants avaient été oubliées. Hortense eut quelque honte de l'avouer. Elle eut aussi du regret d'une telle distraction. Oh, je suis amante, mais je suis mère aussi. Elle eut pour la première fois l'idée d'un conflit possible entre deux tendances de son cœur. Une course dans la ville répara la faute. Elle en profita pour envoyer une carte postale à Burnavast. Ensuite, elle s'adonna avec un certain plaisir à retrouver ses paysages familiers. Il n'était pas aussi différent qu'elle aurait cru. Léonore revenait sans idée lyrique, mais néanmoins très satisfait. « J'ai une maîtresse, et telle que je la voulais. Libertinage et sentiment. Ce mélange donne une odeur aiguë. Mais je ne la croyais pas capable de tant de liberté corporelle. Jamais elle n'aurait osé cela dans son milieu. Les êtres deviennent eux-mêmes hors de leur milieu natal. Alors ils crèvent ou bien ils se développent selon leur logique physiologique. Les Bretonnes, dont Paris fait parfois de si agréables petites guenipes, sont à l'ombre de leur clocher de rêveuses prudes. Et Hortense est, comme l'a dit M. de Marion, naturellement lascive. Elle aurait pu mourir sans connaître l'art d'exercer avec fruit ce tempérament précieux. Elle semblait si gauche et si honteuse quand elle se laissait aller dans nos premières rencontres. Elle-même, ne va-t-elle pas m'aimer trop? Quitter son mari, oh non, qu'elle reste mon secret. Il était de fort bonne humeur, s'intéressant aux arbres, aux rivières et aux maisons. La monotonie des champs de pommiers et de bœufs ne l'ennuyait nullement. N'ayant rien à désirer, Il jouissait de vivre. Il s'arrêta à 40 ans pour chercher la maison ou cacher un lit, ne la trouva pas, mais découvrit une chambre meublée assez convenable. Le patron d'un caboteur anglais l'habitait parfois, mais on serait heureux d'avoir un locataire plus sobre. Tout sentait le whisky. Il s'en accommoda, fit nettoyer, paya très bien, et ne cacha rien de ses intentions. « Oh !» répondit-on, « l'autre y en amenait aussi, pourvu qu'on fasse pas de bruit. »« Oh !» songeait-il, « ah, voilà donc ce qu'elle sera pour ces gens, elle en sera. » Il partit, alla errer le long de la mer à grand camp, sans penser à rien qu'aux petites sensations du moment qu'il voulait agréables. Il n'était pas de ceux qui se plaignent que les plages soient bordées de maisons, qu'il y ait des salles où se réfugier en cas de pluie ou de vent, des boissons pour faire fondre le sel dans la gorge, des nourritures, des lits et le mouvement d'une humanité médiocre mais parfois curieuse. Ces petits garçons qui vont devenir de grossiers mâles, ces fillettes destinées à faire de prétentieuses demoiselles et de riches bourgeoises, quelle joie et délicate animalité! C'est bien plus amusant que les petits chiens ou que les chatons. Il avait souvent réfléchi au mystère de l'intelligence chez les enfants. Comment se fait-il que ces subtils êtres se transforment si vite en imbéciles? Pourquoi la fleur de ces plantes gracieuses et fines est-elle la sottise? Mais n'en va-t-il pas de même chez les animaux, et surtout chez les animaux les plus voisins de notre physiologie? Les grands singes, si intelligents dans leur jeunesse, deviennent dès qu'ils sont pubères idiots et cruels. Il y a là un cap qu'ils n'ont jamais doublé. Quelques hommes y réussissent. Leur intelligence échappe au naufrage et ils voguent libres et souriants sur la mer apaisée. Le sperme est une absinthe dont les forces seules peuvent supporter la violence. Elle empoisonne le sang du commun des hommes. Mais il faudrait un autre mot et un autre principe, car les femmes succombent plus sûrement encore à cette crise. Celles qui ont été intelligentes dans leur jeunesse le redeviennent presque toujours, passé l'âge critique. Chez les deux sexes, il y a deux crises successives, la crise sexuelle et la crise sensuelle. La première vient à date fixe pour les individus d'une même race, d'un même milieu. La seconde coïncide généralement avec l'achèvement complet de la croissance, avec l'état de perfection physiologique. Et parfois, quand commence le déclin, une troisième crise se manifeste, qui ressemble à la première en ce qu'elle comporte presque toujours un état sentimental. Hervard subit en ce moment cette crise, j'en suis presque certain. Hortense et moi-même en sommes à la seconde. Rose épouse la première. Léonore, comme beaucoup de ses contemporains, dédaignait son métier. Architecte, il souhaitait décrire des études ou montrer que la physiologie est la base de toutes les manifestations dites psychiques. Les actes appelés vertueux ou vicieux, il les voyait nécessités par l'état des organes, par la disposition du système nerveux. Rien ne l'inclinait à rire, comme la prétention des femmes frigides à se faire un mérite de leur chasteté. Et il s'étonnait, après tant de contacts scientifiques, de l'obstination des hommes à considérer comme volontaires ou involontaires les explosions de l'organisme. L'influence de la conscience sur la conduite des hommes lui semblait nulle. Il démontrait cela chez lui à un de ses amis, professeur ecclésiastique, au moyen d'une horloge à poids qui ornait son cabinet. « Ce que vous appelez la conscience, disait-il, c'est le poids qui règle la sonnerie. Mais je puis l'enlever et l'horloge continue de marquer les heures, qu'elle ne sonne plus. » Cet ami lui avait avoué que sa chasteté, très naturelle, était tout à fait involontaire. Les femmes n'éveillaient en lui aucun désir. Il en avait fait l'expérience et avait obtenu à grand-peine qu'un résultat décevant. L'exiguïté de ses moyens avait fait rire la femme pourtant blessée qui lui consacrait ses talents. « Je crois, ajoutait-il, que la plupart de mes confrères sont dans le même cas. Quelques-uns, plus favorisés, usent de leurs facultés en secret. Tel autre a un vice, et j'en connais un qui est un danger pour les enfants. Mais en général, nous sommes chastes par la volonté même de la nature. Le libertinage serait pour moi un grand supplice. Je ne m'intéresse qu'aux mathématiques. » Léonore, cependant, entendait bien ne pas succomber aux étreintes de la crise sensuelle. Oui, jouir de cette disposition momentanée, mais en conservant un certain esprit critique. Ne compromettre ni ma fortune physique, ni ma fortune intellectuelle, ni ma fortune sociale. Dans ses limites, se donner tout entier à la folie de la saison. Hortense est un violon admirable. J'en serai l'archet dévoué. Suis-je pas aussi, entre ses mains, de bonne volonté, un instrument assez heureux? Oh, les sots qui passent leur vie à combattre leur passion! Et après? Quand ils voient que le jardin va défleurir, ils viennent, mélancoliques, respirer la dernière rose. Le vent passe, et ils ne trouvent qu'un buisson de feuilles et d'épines. Mais moi, et dès maintenant, ne pourrais-je pas dire aussi « et après » Il y a peut-être de délicieux dans la vie que la constance d'un amour inconscient. Je sais trop que j'aime Hortense, et je sais trop pourquoi je l'aime. Il est certain que le jour où elle m'apparaîtra moins belle, je me détournerai. Et si j'en restais là? Si je cherchais? La variété vaut-elle la qualité? Voyons, si sur ces plages, il faut utiliser mon état d'esprit, c'est-à-dire heureuse irritation de mes nerfs. Le hasard n'est guère que notre aptitude à profiter des circonstances. Léonore rencontra au bord de l'eau une jeune femme assez jolie, une jeune femme comme il en attend, et dont la toilette et la tournure ne disent que des choses indécises sur leur état. En toute autre circonstance, il eut continué, après un coup d'œil, à considérer à ses pieds la mort mélancolique des vagues, mais il se promenait précisément pour cela, pour rencontrer une femme qui se promena seule. Son désir créait le hasard. Un instant, il eut peur qu'on lui fît des avances. Mais on passa. Il suivit. La jeune femme, longeant toujours le flot, s'éloignait des sables fréquentés. Elle voulut saisir un ruban de varech qui lui échappa. Léonore l'atteignit. Sortie de l'eau, c'était un long fouet visqueux. Elle remercia, embarrassée du présent. Rejetez-la, allez, il en est de cela comme de la plupart de nos désirs. Dès qu'on les tient, on voudrait bien les rejeter à la mer. Elle eut un petit rire triste et comme étranglé. Oh, pas toujours, dit-elle. Ils revinrent vers les dunes et, assis sur le sable, ils causaient déjà comme des amis. Elle le regardait avec insistance, quoique à la dérobée. Enfin, elle dit, « Vous n'avez pas l'air méchant. » « Est-ce un compliment ?»« Oh, dans ma bouche, oui. » Alors, s'échauffant peu à peu, elle parla sans arrêt. C'était un flot, pareil à celui qui montait, mais plus rapide. Elle racontait sa vie. Léonore aimait chez les femmes équivoques ces sortes de discours. Il montra un grand intérêt, proféra tous les petits mots qui inspirent confiance. Et Léonore crut bien comprendre ceci. Elle demeurait à Paris et ne se livrait qu'à un petit nombre d'amis, toujours les mêmes. L'honnêteté de sa vie était donc hors de doute. Ses parents, d'ailleurs, n'avaient pas à se plaindre d'avoir une fille comme elle. Ils demeuraient dans le noir près de Boulogne, et aussi pour ne pas les rencontrer, ni des gens de son pays, elle bordait ses pérégrinations aux plages normandes. Parmi ses amis, deux lui étaient chers. L'un, qui était un jeune étranger, ne passait que 6 mois par an à Paris, mais il continuait de lui donner des sommes durant l'été. L'autre, quoique plus âgé, donnait moins, mais elle l'aimait davantage, il avait de l'esprit, étant parisien. C'était un fonctionnaire. Elle ne voulut pas dire au juge dans quel parti, mais cela semblait les beaux-arts. Le premier de ses amis la croyait à Grand Camp, où elle venait d'arriver. Pour le fonctionnaire, elle était à Honfleur. Cela compliquait un peu sa correspondance, mais c'était mieux. D'ailleurs, elle n'avait pas eu l'occasion depuis longtemps d'écrire au fonctionnaire, qui donnait à peine signe de vie par quelques cartes postales. Cela lui semblait suspect et la rendait triste. La dernière fois, il était à Cherbourg, mais n'avait pas donné son adresse. Il a l'air d'un homme qui va se marier. Lui, il n'est pas seulement capable de contenter une femme, pourtant je l'aime. Et puis il me manquerait beaucoup, pour d'autres motifs. Cette femme à la vie si banale, au cerveau si banal, avait un agréable son de voix, la figure fine, de l'esprit dans les yeux, une sorte d'élégance naturelle. Léonore la désira vivement. Je passe quelques jours ici, dit-il. Et moi aussi. Voulez-vous que nous les passions ensemble? Elle rit d'un joli rire, se fit prier, puis accepta, après avoir encore une fois examiné Léonore d'un œil sagace. La proposition acceptée, elle tendit ses lèvres, regarda l'heure à une montre minuscule, et se leva en disant: eh bien, allons dîner, dépêchons-nous pour avoir une petite table. Elle s'appelait Gratienne. C'était une toute petite femme aux cheveux bruns très abondants. Son profil était charmant. Le contraste que faisait cette statuette avec Hortense, opulente Léda, amusa Léonore. Il trouva un corps souple, frais et délicatement parfumé. Elle inclina le voluptueux Léonore à beaucoup de folie. C'était d'ailleurs une praticienne, et comme elle participait ardemment au plaisir qu'elle provoquait, il passa quelques nuits agréables. Les journaux l'étaient beaucoup moins, car il devait subir de prolixes confidences. Il y avait parmi ces histoires quelques très agréables, mais par vertu professionnelle, elle se gardait de jamais prononcer aucun nom propre. Cela embrouillait un peu les anecdotes. Un soir, cependant, elle eut un moment de distraction ou d'abandon, et elle laissa Léonore feuilleter une petite collection de cartes postales. « Et puis, ajouta-t-elle, puisque tu n'es pas de Paris, les noms ne te diront rien. » Léonore considéra les bateaux, des montagnes, des casinos, des baigneuses et beaucoup d'autres images. Les unes étaient signées Théobald et venaient d'Autriche. D'autres Paul et venaient des Pyrénées. Tiens, le château de Tour-la-Ville. Sans en avoir l'air, il examina attentivement l'écriture de l'adresse. Il ne la connaissait pas. La carte était signée H. Il passa. Encore un château de la Hague, cette fois la signature était Herve. Ne serait-ce pas Hervart? Le nom s'étalait tout entier au bas du château de Martin Vast, en même temps que de tendres baisers. Ah, c'est lui, le fonctionnaire des Beaux-Arts, en effet. Cela l'ennuya un instant d'être le collaborateur, même occasionnel, de M. Hervart. Il lui préférait un inconnu. Théobald lui agréa davantage. Mais tout à coup, il songea à Rose. « C'est curieux, se dit-il, que nous avions les mêmes femmes en tous les anges. » Et comme Ratienne regardait par la fenêtre, il glissa dans sa poche le château de Martin Vast.
Chapitre 13. Depuis que son mariage était décidé, M. Hervart semblait très heureux. La confiance de Rose s'était accentuée encore et leur intimité. Il n'avait plus d'hésitation que sur un point. Quelle date choisir? Rose, sans oser l'avouer, souhaitait être mariée au plus vite afin de connaître la conclusion de l'histoire. Cependant, les femmes sont naturellement pliées aux longues patiences. Elle attendrait si Xavier décidait qu'il fallait attendre. Obéir à Xavier était une grande volupté pour elle. Les nouvelles hésitations de M. Hervard ne se comprenaient pas très bien. Sa situation après l'hiver n'aurait aucunement changé. Mais quel obstacle présent? Gratienne? Sans doute, il ne s'en croyait pas sûrement adoré, mais l'aimerait-elle moins, s'ouvrirait-elle moins dans un an? Ses idées sur Gratienne étaient variables d'ailleurs. Tantôt, il lui accordait la vertu d'une femme mal mariée qui s'est donnée par amour à l'élu de son cœur. Tantôt, allant à l'extrême, il la voyait prostituée à tout venant. L'humble vérité lui échappait. Lui, pourtant homme d'expérience en ces matières, il n'avait jamais pu deviner que Gratienne était une fille adroite à concilier ses intérêts, ses plaisirs et ses besoins sentimentaux, ce qui dissociait parfaitement ces trois termes. Elle aimait en M. Hervard l'amant sensuel, mais elle appréciait non moins en lui le fonctionnaire sérieux et riche. Car l'amour libre ressemble en cela aussi à l'amour légal, que l'argent y réconforte le sentiment. Ainsi, M. Hervard estimait Gratienne tantôt plus, tantôt moins, mais il l'aimait toujours également, n'ayant d'ailleurs à lui reprocher aucun manquement visible à leur contrat. Abandonner Gratienne le désolait, non point à cause du chagrin qu'il en éprouverait lui-même, mais à cause du chagrin qu'éprouverait certainement la jeune femme. Et puis, même quand il méprisait Gratienne, il tenait à son estime. Tout cela, cependant, s'arrangerait, pensait-il, car la situation était banale et de celle qui se dénoue nécessairement tous les jours. « Dès que j'aurai possédé Rose, je ne penserai plus à Gratienne, ça est évident. Et puis pourquoi rompre brutalement avec cette fille charmante? J'entends bien ne pas la froisser. » Au fond, ce qui continuait d'effrayer M. Hervard, c'était le mariage lui-même. Il sentait, sous la douce jeune fille, poindre le tyran, qu'elle devienne toute. Elle-même, donc elle sera jalouse. Moi aussi, peut-être. Ou peut-être qu'en peu de jours, elle me désobligera. Lui plairai-je longtemps? Elle-même, parce qu'elle ne connaît que moi. Je puis du moins, pendant les premiers mois, prévoir des exigences qui me seront douce, puis fatale. La santé de M. Hervard l'inquiétait parfois. Il se réveillait plus fatigué qu'il ne s'était couché. Le moindre froid la grippait à la gorge ou aux articulations. Enfin, il respirait mal et des vertiges le prenaient dès que l'heure d'un repas se trouvait retardée. « Je suis fou, me voilà en train de me marier à l'âge où les hommes sages commencent à se démarier. » Bon, je suis malgré tout solide et je puis encore dompter une femme. » Il se rappela avec fierté son dernier entretien avec Gratienne, qu'il avait vaincu, annihilé, réduite en bouillie. Cependant qu'allègrement, faisant le coq, il chantonnait et caressait par de douces paroles son heureuse victime. « Bon, d'ailleurs, avec Rose, je serais le maître, je serais pour elle l'homme et les hommes. » « Tiens, pourquoi donc Gratienne ne m'a-t-elle pas écrit depuis que je suis ici ?»« Ah, mais je ne vais pas donner mon adresse !» Il trouva d'abord que c'était bien ainsi, puis il se fit des reproches, eut presque des remords. Alors il rédigea vite une lettre à ses tendres, demandant des nouvelles. Il y avait une boîte aux lettres, non loin sur la route de Saint-Martin. Il descendit rapidement de sa chambre et y courut. À son retour, il trouva Rose dans le jardin. Depuis leur fiançailles, elle vivait dans un perpétuel sourire. Elle entrait naïvement dans sa destinée, ne soupçonnant plus aucun obstacle possible à son bonheur. En même temps, sans doute par instinctive coquetterie, elle était devenue non pas plus réservée, mais moins prompte aux jeux habituels. Elle parlait beaucoup de son futur ménage, voyant déjà le meuble du salon dont elle jugeait par là les catalogues illustrés, la couleur des tapis et celle des rideaux.
L'idée de ce mobilier navrait M. Hervard, qui goûtait les meubles anciens, les trouvailles heureuses et les mêlait sans vergogne à des façonnages pratiques établis sous sa direction. Ce matin, il supporta plus malaisément encore ses bavardages ménagers. Il s'ennuyait. « Mais est-ce que je n'éprouverais pour elle, se demanda-t-il, qu'un amour tout charnel ? Si je ne vois pas en elle, en même temps que l'amante, l'épouse, la mère, la maîtresse de maison, à quoi bon me marier ? En ce cas, Gratienne me suffit. Le mariage est délicieux quand on sort du collège. Où trouvera-t-on de plus heureux ménage que parmi les étudiants ? On vit l'un sur l'autre, l'un dans l'autre. La promiscuité paraît un enchantement. On fait connaissance avec le sexe adverse. On se complète. Plus tard, tant d'intimité n'est déjà plus possible. Et plus tard encore, on se contente fort bien de visitations amoureuses, en attendant le moment où la solitude nous apporte les seules minutes de bonheur appréciables. M. Hervard ne donna pas de conclusion à sa méditation, et la matinée se passa ainsi. Rose, choisissant dans l'idéal des papiers de tenture, et Xavier, philosophant en secret sur les ennuis du mariage. Après déjeuner, une idée diabolique lui vint. Pourquoi ne prendrait-il pas une avance décisive sur ses droits conjugaux ? Le sang lui monta à la tête. Il haletait un peu en serrant Rose contre lui. Quand ils furent assis, ce fut d'abord, après des rebuffades, l'habituelle cérémonie. Elle laissait la main de son ami presser son sein nu, jouer dans les frisures de son aisselle, presser à travers la robe ses hanches. Leurs bouches cependant se baisaient, se mordaient, s'écrasaient, se buvaient. Après un moment de calmie, M. Hervant, à genoux maintenant, prit dans sa main un des pieds de Rose. Il en caressait la cheville et elle laissait faire. Il osa davantage, atteignit le mollet, puis le genou. Très émue, elle ne protestait pas encore, se bornant à murmurer « Xavier, non, non, non !» La force pour se défendre mieux lui manquait. Ce qui lui restait d'énergie se concentrait dans ses genoux, qu'elle serrait fermement. « Rose, Rose » murmura-t-il à son tour, « Monsieur Hervard. » La voix était si tendrement triste que les genoux se desserrèrent un peu. La main passa. La main resta là un bon moment, prise dans le doux étau. « Rose, Rose !» L'étau s'ouvrit encore une fois et la main monta. « Rose, Rose !» Les genoux s'écartèrent tout à fait et la main d'un bond arriva au but. L'étau maintenant s'ouvrait et se fermait à coups précipités. La main eut toute licence. Il ne se passa rien de plus. M. Hervard n'osait pas. Cependant que, fort mal à l'aise, il déplorait sa vertu. Rose le câlinait, l'appelait vilain. « C'est curieux, pensait-il, comme elles ont naturellement le même vocabulaire. » Il avait honte. Rien ne rend honteux comme d'avoir manqué le but, quelle qu'en soit la cause. Et il dit un peu nerveusement, « Marchons, voulez-vous, faisons quelque chose. »« Mais je suis idiot, songeait-il, le long de la route de Couville, où il y a des rochers, des digitales et quelques bruyères parmi les bouleaux. Car enfin, c'est ma femme. » Les jours suivants, les mêmes jeux se renouvelèrent plusieurs fois, et toujours M. Hervard hésitait au moment décisif. D'ailleurs, se demandait-il, me laisserait-elle faire ? Je ne puis pourtant pas violer ma fiancée. Je ne lui ai rien appris qu'elle ne connaisse. Si nous arrivions aux leçons inédites, comment prendrait-elle cela ? Il continuait, triste plaisir pour moi, j'en ai assez. Cela n'était amusant que la première fois. Un soir, enfin, qu'ils étaient sortis seuls, qu'ils n'arrivaient jamais, il fut un peu hardi. Voilà, réciprocité, se disait-il. L'obscurité fit que Rose accueillit encore plus volontiers les caresses de son amie. Elle les attendait. Évidemment, cette chose qui avait paru si hardie à M. Hervard lui semblait déjà toute naturelle. Bien plus naturelle, peut-être, que de me laisser toucher sa gorge ou l'envers de son épaule. M. Hervard osa donc demander davantage. « Rose, Rose !» Mais la main de la jeune fille recula. Rose, en étouffant un cri, se leva et dit « Rentrons !» Et elle ajouta, à l'instant d'après, « C'est mal, Xavier, c'est mal. Respectez-moi. »«
Quelle logique !» se disait M. Hervard. « Respectez-moi !»
Mais en effet, j'ai eu tort. C'est avec les jeunes filles, surtout, qu'il faut commencer par la fin. Le lendemain, ils se rencontrèrent de bonne heure et Rose, ne voulant rien entendre, ni même m'accorder un baiser amical, prononça l'arrêt qu'elle avait médité. « Je suis fâchée. Si vous voulez que je vous pardonne, partez immédiatement et écrivez-moi d'ici 8 jours que tout est prêt pour notre mariage. Je vous aime. Vous en apercevrez quand je serai votre femme, mais pas avant. J'ai bien voulu jouer avec vous. Vous avez tenté d'en abuser. C'est mal. Allez. » Il fallut partir, elle fut inflexible. Quand M. Hervard monta dans l'express à Sotteval, Rose pleurait. Elle lui avait pardonné, car elle l'aimait. Elle lui avait pardonné, car il obéissait.
Chapitre 14. De 8h57 du matin jusqu'à 6h du soir qu'elle sonna à sa porte, M. Hervard n'avait eu exactement qu'une idée, une seule, coucher avec Gratienne. Elle était à Paris depuis la veille et elle venait de lui écrire quand elle avait reçu de Caen le télégramme de M. Hervard. Son contentement était extrême. Elle réalisa avec joie le vœu de son ami. « Je t'aime, gros loup !» M. Hervard fut 2 jours sans penser à Rose que comme à une chose lointaine. Il retrouvait le Louvre avec émotion. Il contemplait la colonnade avant d'entrer. Le héros combattant même lui semblait une nouveauté. Il alla méditer devant la Vénus accroupie, qu'il aimait particulièrement. C'est là qu'il donnait parfois rendez-vous à Gratienne. Ah, comme il l'aimait! Avec quel plaisir il avait retrouvé son Éphèbe! Le 3e jour, il reçut la lettre de Gratienne au retour de Robin Vast. Cela ne laissa pas que de le troubler un peu. L'écriture de Rose superposée à celle de Gratienne. Mais quoi? Ne sont-elles pas toutes les deux superposées dans la vie? Que dis-je, entremêlées? Rose est bien trop ignorante du train des choses pour avoir aucun soupçon. Et puis des lettres d'écriture féminines, j'en ai reçu 10 ans, me cacher pendant mon séjour à Romain Vastre. Rose, il est vrai que j'ai été un peu loin avec elle. Mais à qui la faute? Si elle avait résisté aux premières attaques, j'aurais pas insisté. Quel égoïste! Je devrais pourtant lui écrire. Non, non, pas aujourd'hui encore. C'est à mon tour d'être fâché. Dans la journée, il pensa encore plusieurs fois à Rose. Les scènes du jardin et du bois revenaient l'énerver. Puis une question se posait dans son esprit. « Est-ce que je l'aime ?» Mais il refusait de répondre. D'autres se présentèrent plus insistantes encore. « Comment reculer ?» Il ne comprenait pas. Il n'avait pas l'intention de reculer. Alors, à quand le mariage ? Cela, il n'en savait rien. « Oh, qu'on me laisse respirer !» J'arrive, j'ai des travaux en retard, des amis à voir. Il faut que tout se fasse. Pour la petite dryade du bois de Robin Vasse, il n'y a qu'une chose au monde, moi. Et pour moi, il y en a 10, il y en a 1000. Il sonna, donna des ordres inutiles, demanda des renseignements vains. Vers 3 heures seulement, il ouvrit la porte à une image qui rôdait depuis le matin autour de sa tête.
Gratienne devait venir le prendre à 4 heures. Il devait aller à Saint-Cloud. C'était un de ses grands plaisirs qu'il retrouvait là. Rose comprendrait-elle ces paysages si profondément civilisés, cette nature assagie, ces coteaux aux lignes harmonieuses, comme le corps d'une belle femme couchée? Monsieur Hervard se sentait fort dispos. Les malaises qui l'avaient inquiété à la campagne avaient disparu depuis son retour. Il trouvait en Gratienne l'accueil favorable à la réalisation de ses désirs. Elle connaissait ses goûts, ses manies, et les partageait. Bref, il se promettait, après cette familière promenade, des heures émouvantes. Une surprise fort désagréable, cependant, l'attendait. Après des préludes passionnés, alors que tout son être tendait à la réalisation de l'acte, M. Hervard eut une faiblesse. Sans doute la tendresse habile de Gratienne en avait triomphé. L'amour-propre des deux parts avait été sauf, mais il n'en restait pas moins que pour la première fois de sa vie, M. Hervard avait manqué de présence d'esprit. Le matin, il songea à Stendhal, emporta le volume à son bureau et lut avec une grande attention le chapitre 40-60 de l'amour. Il n'y trouva aucun éclaircissement. Gratienne, certes, ne lui en imposait point, et d'ailleurs, nulle femme ne lui avait jamais inspiré cette sorte de passion mal équilibrée où le corps recule, effrayé par son audace. Stendhal a sans doute trouvé une des causes de l'absence d'à propos, mais il n'en a trouvé qu'une. Et puis tout ça, ce n'est pas de la psychologie, c'est de la physique. Il n'y a que de la physique. Bourret me dira cela. Bourret, qui connaissait la vie de M. Hervard, s'en fit compter point par point la dernière année. Ensuite, il dit, « Bien, ben c'est très simple. » Bourret n'usait point de circonlocution. Il était net et brutal. Ayant réfléchi une minute, il continua. « L'amour platonique a pour accompagnement fatal l'onanisme solitaire. Le flirt simple mène aux mêmes conséquences. Le flirt double, c'est l'onanisme à deux, hypocrite et discret. » Vous voyez, c'est comme l'almanach liégeois. Le flirt triple, s'il existe, ce serait encore l'onanisme à deux, mais avéré, franc. C'est peut-être moins dangereux que le flirt double, qui n'est autre chose que la spermatorée provoquée. Aucune virilité ne résiste à cela. Les femmes, pour une autre cause, moins facile à expliquer, y crèvent tout comme eux. Les hommes sont fous. Que diable, si vous avez besoin d'une femme, prenez une femme et soyez le bel animal qui remplit sa fonction. Et surtout, méfiez-vous des jeunes filles. Les jeunes filles ont dévirilisé plus d'hommes que des messalines. Le rêve aux étoiles, les baisers furtifs, les serrements de main sont presque toujours chez un homme impressionnable. Et surtout, s'il y a quelques mois ou quelques semaines, de chasteté derrière, lui accompagné d'une perte séminale. Or, savez-vous ce qui arrive? On s'y habitue. Et je crois que nos organes, malgré leur étroite dépendance réciproque, ont une certaine autonomie. L'organe éjaculateur, se voyant peu à peu dispensé de son effort accoutumé, prend le parti de se reposer. Comprenez-vous? Alors la fontaine coule tant qu'elle veut. À la première sommation, ne trouvant plus d'obstacles, elle se répand. Il faut boucher la fissure. Il faut du ciment. D'abord, bien entendu, chasteté absolue pendant un temps indéfini. Occupation très active. Fatigue. Obtenir un sommeil de brute. Et ensuite, dans 2 ou 3 mois, faites quelques tentatives directes, absolument directes. Si cela va, il faudra vous marier et vous appliquer à faire des enfants. Voilà. Alors enfin, vous me condamnez au devoir conjugal. Oui, c'est cela même, et encore. Alors il faudrait donc épouser une femme que l'on n'aime pas. Mais ce serait la vraie sagesse. Et lui être fidèle? Évidemment. Ou bien renoncer à tout? Oh, je ne vais pas jusque-là.
Votre cas n'est pas désespéré. Vous avez fui à temps.
Non, je n'ai pas fui, on m'a éloigné.
Mais bénissez la cruelle. Dites-moi, alors elle se laissait faire?
Oui, et même avec une certaine bonne grâce.
Ce sera une femme bien dangereuse.
Mais elle est si innocente.
Il n'y a pas de femme innocente.
Elles savent d'instinct tout ce que nous prétendons leur apprendre.
Bien, c'est cela l'innocence. Peut-être, mais un voluptueux délicat avec une jeune fille innocente et amoureuse est un homme perdu.
Bien, je commence à le comprendre.
Il n'y a pas, reprit Bourret, plusieurs sortes d'amour.
Il n'y en a qu'un. L'amour est physique. Le plus éthéré retentit dans l'organisme avec autant de certitude que le plus brutal. La nature ne connaît qu'une fin, la procréation. Et si le chemin que vous prenez n'y conduit pas, elle vous arrête et vous condamne au moins à quelques simulacres. C'est sa vengeance. Tout sentiment intersexuel tend à l'amour, à moins que son caractère initial ne soit bien défini ou que les partenaires soient dans la phase de la vie où l'amour est impossible.
Mais je vous traite trop en ami, j'abuse.
Vous paraissez songeur.
Vous ne vous intéressez pas autant à ces questions que Léonore Varin.
Oui, c'est mon élève en physique des mœurs.
Et comment va l'enfant? Il se prédonise pas? Lui, il ne flirte pas?
Oh non. Varin m'intéresse, le connaissez-vous?
Fort peu.
Vous perdez. Il deviendra un de ces jours un esprit supérieur s'il surmonte la crise sensuelle. Vous voudrez le marier.
C'est votre panacée.
Oh, c'en est peut-être une, mon ami, à condition qu'on prenne le mariage au sérieux.
La stabilité n'est que là.
À propos, vous avez peut-être vu la fille de Desbois. Il m'écrit de temps en temps. Nous sommes restés amis parce que s'il est bête, il a la bêtise laconique. Et puis c'est un brave homme à qui je dois ma position. Or, il est presque embarrassé de sa fille. Il n'a pas de relation.
Comment est-elle? Jolie?
Oui.
Intelligente? Autant que femme peut l'être, s'entend.
Oui. Bon caractère?
Je pense.
Et le principal, santé?
Bonne apparence.
Hé hé! Je vais lancer Varin à la poursuite de cette nymphe.
Oh non, inutile, il la connaît.
Ah, il la connaît!
Monsieur Hervard se leva. Il craignait qu'une question imprévue ne lui fît dire quelque sottise. Si Bourret, l'ami des bois, allait deviner quelque chose, il chercha une phrase ambiguë et la trouva.
Oui, j'ai passé une journée chez les bois avec Varin. Je ne sais s'il est familier dans la maison.
Et il partit.
Oh, voilà une histoire, se disait-il en songeant à sa santé, car le reste était maintenant de second plan pour lui. Plus de femmes, plus de gratiennes, pas de pensées libidineuses. Mais suis-je maître de mes pensées? Pourquoi pas de pieuses lectures? Il passa quelques journées assez noires, puis ordonna dans une des salles de son musée un de ces bouleversements intempestifs qui déroutent les amateurs. M. Herbert avait besoin de se distraire. Après une semaine, Gratienne inquiète envoya un petit bleu. Il céda à la suggestion et le soir même, il fit, selon les rites les plus simples, une tentative que Bourret eût trouvée prématurée. Cependant, elle réussit merveilleusement et M. Hervart se sentit renaître. Étant de très bonne humeur le lendemain à son réveil, il écrivit à Rose dont le silence prolongé finissait par piquer son amour-propre.
Chapitre 15. Léonore, en arrivant à Barnavas, avait trouvé deux lettres dont il n'aurait su dire laquelle l'intéressait davantage. L'une était de M. Desbois, qui le priait de venir achever avant l'hiver et immédiatement, s'il pouvait, les travaux de Robin Vaste.
Une chambre l'attendait. Il n'avait qu'à prévenir, on l'enverrait chercher. La seconde venait de la Mésangerie. C'était un journal. 15 septembre. Que sont les baisers de mes enfants après les baisers de mon ami? C'est l'odeur de l'humble giroflée après le parfum capiteux des fleurs les plus rares. Sotte, se dit Léonore, mais pourquoi écrire? Oui, cette femme a de l'esprit. Sa conversation est agréable, elle a du goût. Et voilà ce qu'elle écrit. Dieu, quelle tristesse! Mais les giroflées ont leur charme, comme elles ont leur saison. Je les retrouve avec bonheur, puisque leur saison est revenue. Ah, cela, pensa Léonore, c'est mieux, c'est presque bien. Herbart est-il encore à Robin Vast? J'espère que non. Son congé n'était pas indéfini, je suppose. Mais si j'écrivais à Gratienne? Ô fleur que mon bien-aimé a fait éclore dans mon cœur, vous embaumez mon âme et vous faites délirer mes sens. Délirer mes sens. Bon, est-il bien utile que je me rappelle au souvenir de Gratienne? J'aimerais autant me renseigner d'un autre côté. Délirer mes sens. Mon corps frémit au souvenir de la nuit de Compiègne, dont chaque minute est une étoile qui brille dans mes rêves. Je ne savais pas ce que c'était que l'amour. Oh, qui sait ce que c'est que l'amour? Je suis pas forcé de répondre aujourd'hui, mais j'y pense. Mais je ne sais pas où est Gratienne. Elle devait partir presque en même temps que moi. Bon, laissons cela. Ce que c'était que l'amour, je ne veux pas retrouver Hervard à Robinas, il m'ennuie. Est-ce qu'elle va vraiment épouser ce fonctionnaire? Si Rose savait. Oui, mais si Rose savait tout. Mais s'aimerait-elle beaucoup plus que M. Hervart? J'ai 10 ans moins que lui, voilà tout. Et ma maîtresse est une pierre au cou, beaucoup plus lourde que la sienne. On éloigne gentiment une Gratienne avec une Hortense. La manœuvre est bien plus difficile. Elle peut faire un scandale, elle peut s'oxyre, elle peut se faire jeter à la porte par son mari et venir se réfugier dans mes bras, alors. D'ailleurs, je l'aime assez, cette belle femme. Je souffrirais beaucoup s'il fallait la désespérer. Et puis Rose est follement amoureuse. Soyons raisonnables. Ah, où en étais-je? Toujours à l'amour. L'amour avant de te connaître, et j'ignorais la volupté avant notre nuit de folie. Bon, cela c'est très possible, mais pour l'amour je doute. Est-ce de l'amour, cette frénésie de curiosité sensuelle qui nous pousse à vouloir connaître sous toutes ses faces et selon tous ses mystères le corps que nous désirons? Pourquoi pas? C'est même sans doute le plus bel amour. Mordre, manger, dévorer. Ah, qu'ils ont bien compris cela, ceux qui réduisent l'objet de leur amour à un petit morceau de pain qu'ils avalent. La communion, mais quel acte d'amour! C'est merveilleux! Bourret trouverait cela fou, peut-être, mais Bourret, qui a raison d'être matérialiste, a tort de ne pas comprendre le mysticisme matérialiste. Peut-on être plus matérialiste à la fois et plus mystique que les chrétiens, ceux qui croient à la présence réelle? La chair et le sang, c'est cela aussi que voudraient les amants, et eux aussi doivent se contenter d'un simulacre. De folie, cela m'a révélé un monde nouveau. Je ne mourrai pas comme Josué sans avoir vu le paradis terrestre. Cette phrase, malgré sa banalité, agréa Léonore, qui revenait à plus d'indulgence pour sa maîtresse. C'est un grand effort pour elle qu'une si longue lettre. Et comme c'est pour moi qu'elle l'a fait, ce grand et tendre effort, je serais bien fâché de l'âge de m'en moquer. Alors je ferais aussi bien de n'en pas lire davantage. Je vais lui demander un rendez-vous à 40 ans. Cela lui fera plaisir et à moi aussi. Après j'irai à Robin Vast. Tout s'arrange. Le rendez-vous à 40 ans fut difficile à organiser. Hortense, d'abord heureuse et toute prête à partir, semblait hésiter.
C'était trop près, c'était une trop petite ville. Cependant, son désir était si fort. Comment faire? Elle espérait trouver un prétexte pour aller seule à Paris. La vérité était que, réintégrée dans son milieu, Hortense ne sentait pas assez d'audace pour en braver volontairement les règles. Elle était de celles qui sont prêtes à tout, pourvu que les circonstances déterminent leur volonté. Céder vivement à un amant impérieux, n'importe où, dès que la sécurité est assurée, profiter d'un hasard, mais le créer, mais l'organiser. Son escapade à Compiègne lui apparaissait maintenant comme une de ces fortunes que la vie n'accorde pas deux fois. Elle rêvait d'une nouvelle rencontre fortuite avec Léonore, mais un rendez-vous concerté. À cette idée, elle se sentait suivie, guettée, et se trouvait mal. Être surprise par son absurde mari, quelle honte! Si Léonore venait ici, nous trouverions bien quelques combinaisons. Je puis être souffrante un dimanche, garder la chambre, rester seule à la maison, et puis il y a le hasard. Le sang remettait toujours au hasard. Elle n'avait jamais cédé qu'à l'improviste, à aucun de ses amants. « Ne retrouvions-nous pas, continuait-elle, même dans un abandon rapide, quelque chose de la nuit de Compiègne. Les femmes sont des ruminants. Elles peuvent vivre des mois, mais peut-être des années, sur un souvenir voluptueux. C'est ce qui explique la vertu apparente de certaines femmes. Une belle faute, belle fleur au parfum éternel, suffit à bénir toutes les journées de leur vie. » Les femmes se souviennent encore du premier baiser, que les hommes ont oublié le dernier. Hortense rêvait. Léonore désirait. Il ne pensait à la maîtresse d'hier, quand il y pensait, que pour en faire la maîtresse de demain. Son sentimentalisme était matériel. Il passait le ruisseau de pierre en pierre, de réalité en réalité. À défaut d'Hortense, il avait pris Gratienne, non par besoin physique, mais par besoin cérébral. Il lui fallait, pour vivre, l'électuaire de deux ou trois sensations, toujours les mêmes, mais toujours fraîches. Était-il capable d'un sentiment profond? Et un tel amour était-il influé sur ses habitudes physiologiques? Il n'en savait rien. Fidèle aux théories de Bourret, il ne le croyait pas. Il écrivit à Hortense « Je veux que tu viennes. » Elle fut effrayée, mais heureuse. « Comme il m'aime !» La volupté d'obéir lutta longtemps en elle avec la peur. La peur, à certains moments, cédait. « Mais puisqu'il veut que je vienne, c'est qu'il sait que je puis venir, qu'il n'y a pas de danger. Et puis il sera là, lui. » Elle s'appuyait sur Léonore, comme sur un autre mari plus vrai et plus fort, quoique lointain. Lointain, oh non, n'est-il pas toujours présent à sa pensée? La peur, un matin, céda tout à fait. Elle écrivit, elle partit, elle arriva. Elle tremblait, et elle trembla longtemps encore, après que les verrous étaient tirés. Cette nouvelle fête fut vaine pour sa sensibilité. Léonore, étonnée d'une froideur qu'il croyait avoir vaincue pour toujours, l'attribua à une défaillance de la tendresse. Il savait que les femmes ne palpitent qu'avec ceux qu'elles adorent, mais il croyait qu'elles doivent palpiter toujours. Il ne savait pas combien ces organismes fragiles sont capricieux. Il ne savait pas qu'il y a des femmes qui courent toute leur vie après un délire qu'elles ne retrouveront plus jamais. Alors il imagina qu'il n'était plus aimé, et il fut amer, car les hommes volontiers sont amers quand l'exaltation de leur maîtresse est trop modérée. Hortense pleura. « Oh, mon rêve, mon beau rêve !» Sa tendresse pourtant n'était pas diminuée. Léonore dut en convenir en recevant d'un air contrit les baisers poignants d'Hortense. Il demanda pardon, il s'humilia. Et elle fut heureuse un instant aux câlineries de son amant, mais
Elle disait encore tout bas, « Mon rêve, mon beau rêve !» Après son départ, Léonore informa froidement la dame du logis qu'il ne reviendrait pas. Puis après s'être ennuyé longtemps dans une salle d'auberge, il regagna Barnavas. Une lettre l'attendait qui le pressait encore. Monsieur Desbois le priait avec une sorte d'anxiété de fixer le jour où on devait l'aller requérir. Il aurait bien voulu pourtant donner quelques jours à la méditation. Il avait une question à résoudre, même telle. « Oh, nous ne nous reverrons pas à 40 ans, c'est décidé. D'ailleurs, c'était absurde. Quelle localité pour l'amour !» Sa défaillance fut de la répugnance pour le milieu. Cela prouve sa délicatesse, et puis les femmes manquent d'imagination. À moi, tout est palais, la femme que j'adore illuminerait à taudis, mais même telle. Mais il eut beau se répéter la question, il ne trouvait pas la réponse. Que je suis sot! Allez, je le verrai bien la prochaine fois. Moi, je l'aime toujours. Elle est belle, elle est obéissante. Mais est-ce le but de ma vie? Si on me la donnait en toute propriété? À cette question-là non plus, il ne trouvait pas de réponse. Hortense, au même moment, dans son ancienne chambre de jeune fille, s'endormait en soupirant. « Oh, mon rêve, mon beau rêve !»